Venez avec nous, entre Garrigues et Cévennes, au cœur d'un site Natura 2000, pour découvrir les nombreux oiseaux et leurs secrets, accompagnés d'un ornithologue.
Ornitho quoi ?
Le lézard.
Lézard des rochers.
Lézard des murailles.
Lézard des semailles.
Lézard des clochers.
Tu tires la langue.
Tu clignes des yeux.
Tu remues la queue.
Tu roules, tu tangues.
Lézard bleu diamant.
Violet reine collode.
Et vert d'émeraude.
Lézard d'agrément.
Robert Desnos.
Léa.
Camille.
Bonjour à toutes les escapadeuses et tous les escapadeurs. Heureux de vous retrouver depuis le micro de Radio Escapade pour cette 6e saison de l'Ornitho quoi. Et oui, déjà tout ce temps passé ensemble. 5 années pleines, ça nous a laissé le temps de faire plein de choses. Pour cette nouvelle année, pas de grandes nouveautés, quelques bricoles en plus ou en moins par-ci par-là, mais pas de révolution ici non plus. Donc voici le menu qui vous sera servi tout au long de cette nouvelle saison de l'Ornitho quoi. Un menu toujours aussi riche et diversifié. Pour commencer, on va débuter l'émission en musique, et c'est moi, comme un grand, qui fait la programmation cette fois-ci. Juste après, on enchaînera avec un petit instant poétique proposé par les élèves de l'école publique de Sumène. Je vous avais annoncé de petites nouveautés, en voici une. En effet, cette année, l'école de Sumène travaille sur un projet autour de la poésie. Et ils vont nous proposer des poèmes sur le thème de la nature qui ponctueront l'émission. Si vous avez bien tendu l'oreille, il y en a déjà eu un en introduction de l'émission, sur un texte de Robert Desnos. Pour revenir au contenu de cet Ornitho quoi, on retrouvera quelque chose de plus classique avec le Naturo Quiz, et on l'a enregistré avec Lily ce matin. Puis l'actu piaf avec des nouvelles des oiseaux du coin et un bilan de la saison écoulée. Ensuite, une petite revue de presse dans le Nature Actu, et enfin, le vocabu piaf, comme d'habitude, on a envie de dire. On terminera cette première partie avec la réponse à la devinette de Lily. Une fois que nous aurons fait tout ça, on fera une nouvelle pause musicale et poétique, puis on poursuit cet Ornitho quoi avec l'interview d'un homo sapiens. J'ai eu, comment dire, un lapin hier avec un homo sapiens avec qui j'avais rendez-vous pour une interview, donc je vous propose du réchauffer. Cela est une belle occasion de réécouter la superbe entretien que j'avais eu avec Raphaël Matevé, qui est chercheur au CNRS et avec qui on avait parlé sanglier en janvier 2023. L'occasion était trop bonne pour vous resservir cette excellente interview sur un sujet qui n'a pas changé d'un iota. Enfin, nous terminerons cette émission en musique et en poésie. Nous sommes le mercredi 11 octobre 2023, vous êtes en presque direct sur Radio Escapade, vous écoutez l'Ornitho quoi avec Béranger au micro et Fabien qui tourne les boutons dans les studios de Radio Escapade. Nous vous invitons à vous installer confortablement dans votre fauteuil et à mettre vos oreilles sur écoute. Allez, c'est parti, on commence cette émission en vert.
L'araignée au pas de poilu adore le pain d'épices.
Le miel, elle en est goulue et raffole de réglisse.
C'est pas parce qu'on est velu, l'aide à donner la jaunisse,
qu'on doit manger des verrues ou de la pâte à dentifrice. Michel Piquemal.
Liv.
Diego.
Tim.
Angèle.
I'm
Nature Quiz.
Une devinette nature concoctée par notre animatrice en herbe.
C'est le retour du Nature Quiz. En ce moment, c'est la saison du brame du cerf. Peut-être que certains d'entre vous sont allés du côté du Mont Aigoual ou du lac d'Épices pour profiter de ce merveilleux spectacle que nous offre la nature chaque automne. Mais est-ce que vous connaissez le vocabulaire relatif au bois des cerfs? Comment appelle-t-on chacun des rameaux de bois des cervidés? La réponse tout à l'heure, juste avant la pause musicale.
Actu Piaf. Des nouvelles des oiseaux de la région au fil des saisons. On va enchaîner avec tous ces beaux enchaînements. Donc pour continuer, voici l'actu Piaf et quelques nouvelles des oiseaux du coin. C'est la fin de l'été, ou plutôt officiellement le début de l'automne. Enfin, on ne sait pas trop au vu des températures qu'on a en ce moment. Mais c'est une saison plutôt calme pour les oiseaux et la nature en général. Celle-ci rentre doucement, voire très doucement en ce moment, dans son sommeil hivernal. Toutes les espèces que nous suivons sont plutôt au repos ou loin de leur territoire en ce moment. Donc, rien de folichon à vous annoncer. Profitons de ce moment de calme pour faire un petit bilan de la saison écoulée pour les oiseaux que nous suivons de près dans le cadre de Natura 2000. Chez les aigles de Bonelli, un jeune à l'envol cette année, après plusieurs années à blanc. Le poussin est sorti de son nid début juillet, il est resté sur son site quelques semaines encore, il est parti du territoire de ses parents autour de la fin août. À l'heure où je vous parle, il est en erratisme. Peut-être tout proche, en Camargue par exemple, ou peut-être à l'autre bout de la France, voire à l'autre bout de l'Europe, comme ont pu faire ses grands frères avant lui. Pour les aigles royaux, pas de reproduction cette année. En effet, depuis son installation ici en 2013, ce couple ne s'est jamais reproduit avec succès deux années de suite. C'est un phénomène tout à fait naturel qui s'accroît avec ce qu'on appelle la densité-dépendance. La densité-dépendance est un concept utilisé en écologie pour décrire l'influence de la densité d'une population sur les taux démographiques, la natalité, la mortalité et la dispersion des individus qui la composent. C'est-à-dire, en gros, plus il y a de densité d'individus de la même espèce, plus ils s'autorégulent. Du côté du vautour percnoptère, le jeune vauturon. Il y a eu un jeune vauturon cette année. Il doit être loin vers le sud à ce jour. Ce poussin né et élevé sur le massif du Thorac a été observé pour la dernière fois fin août, ainsi que ses parents. Ils ont pris la route vers le sud, comme à leurs habitudes. Pour ce qui est de la femelle du couple, on parle toujours du vautour percnoptère, on sait exactement où elle est, car nous l'avons équipée d'une balise GPS en juin dernier. Ainsi, nous connaissons tous ses déplacements au jour le jour. Elle est partie en migration le 26 août, après un faux départ deux jours avant. Elle a fait une première escale le 27 au soir du côté de Lourdes, avant de franchir les Pyrénées le lendemain et traverser l'Espagne en deux jours. Elle est depuis en Extremadour. L'Extremadour, c'est une région qui est à la frontière entre l'Espagne et le Portugal. La question que l'on se pose est, est-ce qu'elle va hiverner là-bas ou va-t-elle partir plus au sud sur le continent africain comme le font les autres vautours percnoptères? On vous tiendra au courant évidemment. Sinon, d'autres espèces que nous suivons moins, 4 jeunes chez un couple de faucons pèlerins sur le massif du Thorac, les derniers circaètes qui viennent de partir, toujours pas mal de vautours fauves par-ci par-là, vous en avez peut-être observé. Pour les migrateurs de passage, c'est la saison où l'on peut observer les dernières hirondelles qui descendent vers le sud. Le mois d'octobre est aussi la saison où l'on voit passer les pigeons ramiers, les palombes, en migration, ainsi que les grives, trachémoteux ou encore serins cygnes, ou pinsons des arbres. On se retrouve le mois prochain avec l'arrivée des premiers hivernants. Nature Actu.
L'actualité naturaliste internationale, nationale et locale, sélectionnée par votre ornithoquois.
L'horizon des amphibiens continue à s'assombrir. Une étude publiée le 5 octobre dans la revue Nature alerte sur la dégradation de leur état. 40% des 8011 espèces étudiées sont considérées comme menacées à l'échelle mondiale. Leur extinction de masse, mise une première fois en lumière en 2004 dans une évaluation scientifique d'ampleur, n'a pas diminué au cours des 20 dernières années, alertent les scientifiques. Elle s'est même aggravée. On recensait en 2022 37 espèces disparues, dont la jolie grenouille arlequin de Chiriquí, déclarée éteinte en 2020. soit 14 de plus qu'en 1980. Les causes principales de cet effondrement sont le changement climatique, responsable, selon les estimations des scientifiques, de 39% de la détérioration de leur état depuis 2004, suivi de la destruction d'habitats, dont ont souffert 37% des amphibiens. Champignons parasites, espèces invasives, pesticides et trafic routier contribuent également au déclin. Les salamandres et les tritons sont les plus en peine. On trouve la plus grande concentration d'amphibiens menacés dans les Caraïbes, en Amérique centrale, dans les Andes tropicales, les forêts et montagnes de l'ouest du Cameroun, ainsi qu'au Nigeria, à Madagascar, dans les montagnes du Tchad occidentaux, en Inde et au Sri Lanka. En France métropolitaine, on dénombre 39 espèces d'amphibiens, dont 2 en danger critique d'extinction d'après la liste rouge nationale qui date de 2019. Après le loto du patrimoine, le gouvernement lance le loto de la biodiversité. L'objectif est de permettre à l'Office français de la biodiversité de récolter 6 millions d'euros. Il sera disponible le lundi 23 octobre dans tous les points de vente habituels. On dirait que je fais une pub pour la Française des Jeux. Ce nouveau jeu de grattage de la Française des Jeux servira à financer la protection de la biodiversité. Un ticket à dominante verte avec un papillon, la forêt, la mer. Il sera vendu 3 euros le ticket, bien plus abordable que les 15 euros du loto du patrimoine. Car l'objectif au gouvernement, c'est de sensibiliser le plus grand nombre à la préservation de la nature, sachant que la Française des Jeux compte plus de 25 millions de joueurs par an. Un joueur pourra gagner jusqu'à 30 000 euros. Le gouvernement ambitionne de vendre 14 millions de tickets qui permettront à l'Office français de la biodiversité de récolter 6 millions d'euros, à raison de 43 centimes par billet vendu. L'argent sera ensuite distribué au projet lauréat. Le comité de sélection se réunit mardi 10 octobre. Il sera présidé par la secrétaire d'État chargée de la biodiversité, Sarah El Haari. La vingtaine de projets sélectionnés sera connue dans la semaine du 16 octobre. Il y a plus de 60 candidats, le WWF, la Ligue de protection des oiseaux, des conservatoires d'espaces naturels, mais aussi des collectivités locales avec des projets de protection de la nature en ville ou de restauration de la biodiversité dans des zones touchées par les incendies d'été dernier. Les subventions iront de 50 000 à 1 million d'euros. Quelques 6 millions d'euros, c'est une goutte d'eau pour protéger la biodiversité. Mais ce loto se vend avant tout un outil de proximité populaire. Au total, les programmes biodiversité représenteront 1 milliard d'euros en 2024. À ce stade, il n'y a pas d'équivalent de Stéphane Bern qui parraine le loto du patrimoine pour parrainer le loto de la biodiversité. La nature est son meilleur avocat, dédramatise un conseiller de la ministre. Et pour la suite, on attend une kermesse pour les amphibiens et une tombola pour sauver les insectes. Il faut savoir mettre les moyens lorsque la situation le demande, non ? Vocabupiaf. On vous explique le langage mystérieux des naturalistes. Mercredi dernier, nous étions quelques-uns à spotter au col de Saint-Romain-de-Cotière entre la vallée du Vidourle et celle du Recollier. Mais pour ceux qui n'étaient pas là, ça veut dire quoi en fait, spotter ? On est resté toute la journée à observer les oiseaux qui nous passaient au-dessus de la tête, à droite, à gauche, sous nos pieds, tout au loin, dans le ciel bleu. Oui, ce petit point noir qu'on distingue à peine à l'œil nu et que même avec des jumelles, on a du mal à identifier. Mais heureusement, nous avions Gérard avec nous. Bref, vous l'auriez deviné, spotter, c'est rester sur un point à observer les oiseaux passer, des oiseaux migrateurs, principalement. Alors, on devient un spotter. La panoplie du spotter est une paire de jumelles accrochées autour du cou, une longue-vue éventuellement, un guide ornitho, un transat lorsqu'on aime le confort et un thermos pour les jours frisqués. Il y a des sites connus en France et ailleurs pour spotter, où les spotters se rassemblent aux périodes favorables. Citons dans la région Le Roc à Gruissant, par exemple, ou le col de Escrinet en Ardèche qui est réputé pour l'observation de la migration prénuptiale, celle de printemps. Le site de migration le plus connu en France est sans nul doute le col d'Orgambideshka dans les Pyrénées Basques. Alors, la prochaine fois, venez spotter avec nous.
Naturo Quiz.
Une devinette nature concoctée par notre animatrice en herbe.
C'est le moment de la réponse au Naturo Quiz. Je vous rappelle la question où il était question de cerf. Est-ce que vous connaissez le nom donné à chacun des rameaux des bois des cervidés? On appelle ça les andouillés ou des cors. Ce sont les ramifications de la tige centrale de la ramure d'un cerf permettant de déterminer l'âge de l'animal. On parlera de mérin également pour désigner la tige centrale de la ramure du cerf. Pour ce qui est des différents âges, pour les mâles, de 0 à 6 mois, on parle de faon, puis de 6 mois à 1 an, un daguet, de 1 à 2 ans, un brocard, et après 2 ans, on parle de cerf. On comptera le nombre de cors pour connaître son âge. Pour la femelle, on parle de faon, puis de bichette, et enfin de biche, à partir de 2 ans. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Naturo Quiz!
Voilà, merci Lini, c'était un peu compliqué parce qu'elle était malade et du coup, enfin, je sais pas si vous l'avez entendu, mais c'est pas très fluide. Bref, merci quand même Lini. Voilà, c'en est fini pour cette première partie de l'Ornithoquoi. On continue cette émission sur Radio Escapade en chanson.
Compter des salades, disent que la terre est en danger, disent que notre planète est malade. Ils me font flipper ces écolos, à nous dire qu'on va tous crever. Faudrait qu'on roule tous à vélo, et pourquoi pas voter Beauvais. Moi je préfère rouler en humeur, manger des sandwichs OGM. Climat fond, 300 à l'heure, total GPS, GSM. Vu qu'on doit tous y passer, alors allons-y tous en même temps. Faisons pas les choses à moitié, profitons-en. Niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète. I have a dream, j'ai fait un rêve d'une guerre mondiale nucléaire où les enfants d'Adam et Ève s'entretueraient comme des frères. I have a dream, oui j'ai rêvé d'un tsunami, tremblement de terre qui détruirait l'humanité, nous enverrait tous à l'enfer. Faisons péter la couche d'ozone, rasons tout, faisons place nette. Ne laissons surtout pas nos mômes le plaisir de payer nos dettes. I have a dream, je vous le dis, I have a dream, alléluia. Et quand viendra ce jour béni, prions pour voir ça. Amen. Ni quand la planète, ni quand la planète, ni quand la planète. De la dioxine dans nos déserts, des piscines en plein désert, 50 degrés en plein hiver. Et tant pis pour l'ours polaire, un ours, à quoi ça sert?
Niquons la planète. D'être.
Rêve d'oiseau. Sous les fleurs d'églantier nouvellement éclose, près d'un nid embaumé dans le parfum des roses, quand la forêt dormait immobile et sans un bruit, le rossignol avait chanté toute la nuit. Quand les bois s'éclairaient au réveil de l'aurore, le fortuné chanteur vocalisait encore. Sous les grands êtres verts qui lui filtraient le jour, la reine de son cœur veillait au nid d'amour. Dans le berceau de mousse, il revint d'un coup d'aile, impatient alors de se rapprocher d'elle. Puis le maître divin dormit profondément. Mais parfois, il chantait dans son rêve en dormant. Les yeux fermés, il pense encore à moi, dit-elle. Heureuse d'être aimée, heureuse d'être belle. André Lemoine.
Anya.
Ah ben c'est joli, toutes ces petites poésies là qui ponctuent l'émission. On continue avec une interview, une rencontre avec un Homo sapiens. C'est une rencontre qui date de janvier de l'année dernière, où j'avais interviewé Raphaël Matvey, qui travaille au CNRS à Montpellier et qui a notamment beaucoup travaillé, et qui travaille encore d'ailleurs, sur le sanglier. Et il avait publié un livre à l'époque, et puis on avait parlé notamment de tout son travail autour de son étude sur les sangliers. Rencontre avec Homo sapiens.
Échange avec les acteurs du territoire qui contribuent à la préservation de la nature.
Très bien, je suis avec Raphaël Matvey. Bonjour Raphaël.
Bonjour Béranger.
Donc tu es directeur de recherche au CEF CNRS à Montpellier, écologue et géographe, et tu viens notamment de publier, enfin vous venez d'écrire avec Roméo Bondon, un livre qui s'intitule « Sanglier, géographie d'un animal politique » paru chez Actes Sud. C'est plutôt une approche écologique de cet animal, bien connu ici dans les Cévennes, mais aussi surtout une approche sociale, voire parfois philosophique, de la gestion de ce sanglier. On va parler de tout ça en détail. Pour commencer, est-ce que tu pourrais dresser un portrait de cet animal, même si on le connaît tous, mais c'est quoi un sanglier, en fait ?
Ah, un sanglier, c'est, ça a une taille moyenne, ça fait 60 cm, 1m10 au garrot en général. Et ça pèse 80-100 kilos, mais ça peut aller à jusqu'à 150 kilos. Donc c'est un mammifère sauvage, plutôt forestier, omnivore, qui est un cousin évidemment du porc domestique, puisque le porc domestique descend du sanglier.
D'accord. Et si on parle un petit peu plus de sa population, on est dans les Cévennes, des sangliers, il y en a beaucoup, voire énormément, qui posent souvent des problèmes, mais ça aussi on va en reparler. L'évolution de la population de sangliers localement et puis peut-être plus généralement en France, voire en Europe, comment ça a évolué tout ça au cours des dernières dizaines d'années ?
Si on part... Depuis la Deuxième Guerre mondiale, le sanglier était considéré plutôt comme une espèce rare, ce qui faisait que c'était une espèce qui était assez recherchée à la fois par les naturalistes qui cherchaient à observer cet animal-là, puisqu'il symbolisait véritablement l'animal sauvage par excellence, puisque on avait purgé un peu nos massifs forestiers des grands prédateurs, donc du loup, du lynx en particulier, mais aussi de l'ours dans les Alpes. Et puis il était aussi recherché par les chasseurs, puisque c'était une espèce assez dangereuse et qui demande un certain nombre de qualités pour être chassé. Et donc le sanglier, il est passé de ce niveau de rareté après la Deuxième Guerre mondiale à un niveau très élevé ces dernières années. On a toujours du mal à estimer les populations de sangliers et on utilise toujours en fait les tableaux de chasse pour avoir une idée. Et donc on peut garder en tête au niveau national qu'on tuait à peu près 35 000 sangliers dans les années 70, et puis aujourd'hui on en tue plus de 820 000 par an. Donc on voit bien qu'on a une biomasse colossale, et donc on estime aujourd'hui la population de sangliers entre, c'est un exercice difficile, mais entre 1, 2, 2 millions, peut-être un peu plus de 2 millions d'individus. Donc ce qui fait qu'il y a un niveau de reproduction assez énorme. Important, parce que ça veut dire qu'il y a plusieurs centaines de milliers d'individus qui naissent chaque année. Voilà.
Mais on n'a que des chiffres des tableaux de chasse, mais est-ce que la pression de chasse est constante et,
Non,
elle a certainement changé, du coup, cette évolution.
C'est pour ça que je dis que les estimations sont difficiles. Ce que l'on sait à travers les récits naturalistes, par exemple, j'imagine que vous connaissez les Crespons, qui est quand même la faune de Provence de Crespon, qui a dû être publiée dans la deuxième moitié du 19e siècle. La Crespon déclare le sanglier comme une espèce rare, voire disparue de nos campagnes, notamment pour le sud, ici, côté Gard.
C'est sûr qu'on a du mal à s'imaginer.
On a du mal à l'imaginer aujourd'hui. Rien qu'à l'échelle du département du Gard, on est passé de 5000 sangliers abattus par an dans les années 70. Il faut vraiment garder en tête que dans les années 70, c'est le pic du nombre de chasseurs en France, puisqu'en 75, on avait 2,2 millions de chasseurs en France. Donc même si la pression de chasse a beaucoup fluctué et s'est fortement accrue sur le sanglier ces dernières décennies,
et puis peut-être plus efficace
plus
aussi.
De chasseurs. Aujourd'hui, on est en train de basculer en dessous d'un million de chasseurs aujourd'hui.
Oui, mais des pratiques de chasse qui sont plus efficaces peut-être que ce qu'ils avaient à l'époque, non? C'est une question.
Tout est effectivement les battues, un certain nombre de moyens sont mis en œuvre aujourd'hui. Mais cependant, ce qu'on observe, c'est que malgré des efforts de chasse très importants pour prélever, accroître le niveau de prélèvement, on continue dans beaucoup de régions d'avoir beaucoup de dégâts et donc d'avoir beaucoup d'animaux.
Et très localement, ici, dans les Cévennes, je ne sais pas si tu as des chiffres, je sais qu'on a une des communes de France qui tue le plus de sangliers à Sumène. Ils ont eu le record, entre guillemets, pendant quelques années. Il y a une concentration, effectivement, sur les Cévennes, plus qu'ailleurs. Tu as des éléments là-dessus?
Oui, en fait, le département du Gard et le sud Cévenol, pendant longtemps, fréquentent souvent les records de tableaux de chasse, puisqu'on... Comme je disais, on est passé de 5000 dans les années 70 à l'échelle du Gard, de quelques milliers, on va dire, à plus de 42-45 000 individus abattus. Donc c'est colossal quand on y réfléchit. Pour un département qui fait 500-600 000 hectares, c'est impressionnant.
Et la situation, elle est un peu moins marquante ailleurs? C'est vraiment ici, dans le Gard, dans les Cévennes notamment, qu'on constate ça de manière très évidente.
Oui, en fait, la problématique sanglier, elle est en train de se généraliser dans toute la France, dans toute l'Europe. On a des problématiques de dégâts agricoles, de collisions routières, de pénétration en ville des animaux qui créent différents aléas. On y reviendra peut-être.
Ouais, ouais.
Donc le Gard est un peu en avance au sens où il a vu l'abondance du sanglier fortement progresser plus qu'ailleurs. Et en même temps, il a pris des mesures, la Fédération départementale des chasseurs a pris des mesures peut-être plus rapidement qu'ailleurs. Voilà. Après, on peut discuter de l'efficacité, de la diversité des mesures qui sont prises, mais disons que je me souviens, moi, nous, quand on a commencé de travailler officiellement sur le sanglier en 2017, de mémoire, on avait eu quand même plusieurs collisions routières avec des mortalités humaines, ce qui générait quand même... Et puis, on avait les dégâts agricoles qui s'élevaient à plusieurs centaines de milliers d'euros et qui fragilisaient énormément la trésorerie des chasseurs.
Bien sûr, on en parlera peut-être après. Et cette évolution, elle est due à quoi, en fait? Quels ont été les facteurs? Pourquoi on avait très peu de sangliers avant et puis que maintenant, il y en a autant? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, il y a de nombreuses raisons qui peuvent expliquer l'abondance, le niveau de population actuel des sangliers en France, mais aussi en Europe et ailleurs dans le monde. Et ces raisons-là, elles se succèdent dans le temps, mais elles ne disparaissent pas. Elles se cumulent, et puis elles rentrent en synergie. Donc la première raison qu'on peut évoquer, c'est l'évolution de la couverture forestière, c'est-à-dire qu'avec l'exode rural, On a une évolution assez marquée des abandons des terres agricoles ou pastorales en milieu de moyenne montagne ou sur les plus fortes pentes de nos différents massifs alpins. Et on a un phénomène qu'on appelle d'afforestation, c'est-à-dire de reconquête spontanée de la forêt sur ces espaces anciennement agricoles. Et donc aujourd'hui, on a près de, je sais pas, 30% du territoire national qui est occupé par la forêt, alors plantations comprises, etc. Hein. Mais ça fournit énormément d'abris et de nourriture pour le sanglier. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est... Alors, il n'y a pas de hiérarchie hein, dans les raisons que je cite. Ensuite, il y a le fait qu'on a annihilé tous les prédateurs du sanglier. Une prédateur naturel, j'entends notamment le lynx et le loup, même si ces espèces-là sont
en train
de revenir en phase de reconquête territoriale ces dernières années, leur niveau de population est très largement insuffisant pour contribuer à réguler la population de sangliers aujourd'hui.
Il y a eu récemment des remarques du monde de la chasse, notamment dans la Drôme, je crois, se plaignant justement de l'effet de la prédation du loup sur les sangliers. T'as dû voir passer
oui,
ça.
Alors ça c'est nouveau. On avait des indications également dans le parc des Écrins, mais pour le moment il n'y a rien d'évalué. Ni rien de concret. Jusqu'à présent, le loup est plutôt connu pour impacter chez les ongulés sauvages plutôt les populations de chevreuils, de mouflons. Pour le sanglier, ça reste assez marginal, malheureusement, je dirais, pour le moment. Ouais. Sachant qu'il y a des études, par exemple, en Espagne, qui montrent où il y a une population quand même deux fois plus importante de loups qu'en France. Je pense qu'on doit être à plus de 2000 loups en Espagne. Les dernières études publiées montrent que même si le sanglier, notamment les jeunes sangliers, rentrent dans le régime alimentaire des loups espagnols, ça reste la chasse qui reste le principal facteur de régulation des populations de sangliers, y compris en Espagne. Donc la disparition des prédateurs. Ensuite, on a l'évolution de l'agriculture. Avec la modernisation agricole, donc on a les abandons des terres sur les plus fortes pentes, et puis on a où les terres les plus ingrates en plaine, et puis on a l'élargissement des parcelles, on a toute une agriculture moderne avec des phytosanitaires qui va évidemment avec le remembrement, l'arrachage des haies, etc., va porter atteinte aux petits gibiers à poils à plumes, hein, les perdrix, les lièvres, les lapins, plus les maladies, etc. Donc tout ça conjugué va faire qu'on va avoir un peu une disparition selon les régions du petit gibier, alors qu'on n'a jamais eu autant de chasseurs, hein, puisqu'on en a plus de 2,075 millions, et va se poser la question de comment éviter que les chasseurs raccrochent leur fusil. Et donc là, les institutions vont se tourner vers le gros gibier, et puis on va essayer d'intéresser davantage de chasseurs au sanglier, et on va créer les conditions d'un développement du sanglier. Ces conditions-là, c'est on va créer ici et là des élevages, on va pouvoir réintroduire des sangliers ou faire du renforcement de population selon les régions. Encore une fois, hein, c'est très très hétérogène les situations. Et puis on va faire des points de nourrissage, des points d'abreuvement.
Sur les relâchés qu'il y a eu, parce qu'on entend souvent dire qu'il y a eu de l'hybridation entre des sangliers sauvages et des cochons.
Voilà. Ouais, il y a eu aussi de l'hybridation avec les porcs domestiques, hein. Soit de manière dans les régions où on avait des porcs domestiques qui tournaient autour des fermes, qui étaient élevés en semi-captivité, comme en Corse, hein, par exemple, qui est une région qu'on peut comparer aux Cévennes. Donc en Corse, on a désormais beaucoup de mal à distinguer d'un point de vue génétique sanglier de cochon domestique, hein, du fait de la forte hybridation des populations de sangliers dans ces espaces-là. Après, certains ont décidé, à des fins effectivement de procréation et de développement des populations locales, ont favorisé localement il y a 30 ans, 40 ans notamment, ont pu favoriser très localement l'hybridation avec des porcs domestiques et faire ce qu'on appelle le cochon glié. Mais ce sont des pratiques désormais plutôt révolues, je dirais, et qui sont, il y a quand même une veille des institutions pour éviter que ça perdure, quoi. Voilà. L'autre pratique, c'était des pratiques de chasse dites conservationnistes, c'est-à-dire on est passé de chasseurs qui prélevaient dans la nature à des chasseurs gestionnaires, c'est-à-dire qui faisaient en sorte d'avoir un capital de gibier et qui prélevaient les dividendes. Donc, fallait avoir des pratiques de chasse dites conservatrices. Et donc ça consistait à éviter de tuer les laits dominantes ou les bons reproducteurs pour faire en sorte d'avoir toujours des animaux à chasser sur le territoire. Donc ça a participé au développement des populations de sangliers. On ajoute le fait qu'il y a, avec le changement climatique, on a une disparition, on le constate tous depuis plusieurs années, sinon quelques décennies. On a une raréfaction des hivers rigoureux, et ces hivers rigoureux qui contribuaient le plus à la mortalité naturelle des animaux. Et le fait d'avoir de la nourriture en abondance dans les forêts avec les glandés, avec les faines, avec les champignons, etc. Les sangliers ont jamais eu autant de nourriture, si je puis dire, même s'il y a de fortes fluctuations et de fortes disparités selon les massifs forestiers et les régions françaises. Donc voilà un peu où... Et donc toutes ces raisons conjuguées ont contribué à ce qu'on peut appeler une explosion démographique des populations de sangliers. Et enfin, il y a un dernier facteur qui a été mis en évidence par les collègues spécialistes en dynamique des populations d'animaux sauvages, qui ont montré effectivement que plus on chassait le sanglier, plus le sanglier savait adapter sa reproduction et avait tendance à se reproduire de plus en plus jeune et à faire de plus en plus de petits et à se caler sur le modèle écologique de dynamique de population des mésanges. Donc avec un sourire narquois, les collègues dynamiciens des populations comparent la population de sangliers à celle des mésanges charbonnières, qui ont une courte espérance de vie, qui est de l'ordre d'une paire d'années. Et donc, ils doivent faire le plus de jeunes possible, évidemment, pour perdurer dans le temps. Et donc, ce sont des stratégies de reproduction que le sanglier a adaptées, même s'il a toujours... Si on compare au chevreuil, notamment, qui est de taille à peu près comparable, le chevreuil réagit totalement différemment. Au contraire, une population de chevreuil très chassée diminue, alors qu'une population de sangliers très chassée voit croître bien son taux de reproduction.
Ouais. Et on en est où là dans la courbe? Parce que donc on a dit qu'on la population elle a fortement augmenté, enfin c'est peut-être de manière exponentielle. On continue à monter ou on commence à atteindre le plateau là de cette population?
Alors ça dépend des régions et des endroits, mais globalement à l'échelle nationale, on continue d'augmenter. C'est-à-dire, on pense qu'on tue autour aujourd'hui de 800 000 sangliers. On pense qu'il va falloir envisager d'en tuer 1 million d'ici 2030. Donc malgré l'effort de chasse colossal de ces dernières années.
Et tu disais donc que cet effet de pression de chasse ne règle en rien, enfin n'intervient en rien sur la population. Comment ça se fait ça?
Elle réduit localement les dégâts. Ouais. Elle permet de réduire les dégâts et de réduire transitoirement la population, mais il faut produire un effort de chasse tel que les chasseurs sont guère en capacité, selon les endroits, à tenir cet effort. Alors il y a plusieurs raisons. C'est parce que en fait, c'est difficile de chasser dans certains endroits parce que le milieu est très fermé, ou du fait de la structure foncière, ou du fait de la présence de beaucoup d'infrastructures humaines, donc qui rendent difficile l'exercice de la chasse dans de bonnes conditions de sécurité pour les biens et pour les personnes. Hein, donc ça, c'est un point. L'autre élément, c'est que c'est difficile de réguler le sanglier, parce que le chasseur, par essence, c'est ce qu'on discute aussi dans l'ouvrage, c'est-à-dire que l'essence de la chasse n'est pas la régulation.
Ben non.
L'essence de la chasse, c'est de donner une chance au gibier. C'est de partager un moment dans la nature avec son chien et de laisser une chance d'abord au gibier, une chance de s'enfuir, d'être plus malin que le chasseur et ses auxiliaires. Et en même temps, c'est d'avoir le choix ou pas, de décider ou pas de tirer sur l'animal qu'on a dans sa ligne de mire. La régulation, c'est tout autre. La régulation, c'est désormais de chasser les animaux pendant près de 10 mois sur 12, de tuer toutes les classes d'âge, de tuer peu importe le sexe, peu importe si c'est un mâle ou une femelle, un gros, un petit, un jeune, un vieux. Donc on n'est plus dans l'essence de la chasse. Et donc ce basculement-là, il génère beaucoup de malaise et beaucoup de chasseurs qui se retrouvent pas forcément dans cette injonction des institutions, hein, de la préfecture, de la pression du monde agricole, la pression éventuellement de citadins qui veulent pas voir les sangliers saccager leur potager. Et donc ils ont une injonction comme ça qui est difficile à tenir, puisque ça répond pas ça transforme le chasseur en opérateur de destruction. Ça fait de lui un agent de destruction animale et non plus un chasseur.
Ouais, ouais. Mais c'est comme ça souvent que les chasseurs se présentent dans les sociétés de chasse, comme étant ils mènent une action d'intérêt public quasiment quand ils vont chasser.
Oui, oui, c'est une action d'intérêt général, mais qui, encore une fois, il y a toujours un décalage entre le discours promu par les institutions et la réalité du chasseur de base, quoi. Voilà, enfin, du chasseur sur le terrain qui prend pas forcément plaisir à tuer en masse des sangliers, quoi.
D'ailleurs, notre regard, enfin, il a vraiment bien changé sur cette espèce maintenant qu'on voit vraiment, enfin, je vois autour de moi ou dans les réunions, enfin, quand on en parle, c'est considéré plus que comme un nuisible. Et plus jamais comme un animal sauvage, beau, même chez les naturalistes, etc. Naturalistes, ils ne regardent plus les sangliers comme étant quelque chose de joli. Ils veulent le faire pour un chevreuil, mais pas pour un sanglier.
Enfin, oui, le regard, il a vraiment changé. C'est un animal qui est devenu mal aimé. Il est passé d'espèce gibier recherchée, donc gibier bonne pour la viande. Il l'est encore, hein, dans des coins des Cévennes. Dans pas mal de régions françaises, heureusement, il est encore une espèce recherchée en tant que gibier. Il est plus vu encore comme espèce gibier recherchée. Mais dans de plus en plus d'endroits, effectivement, on le perçoit uniquement comme un nuisible dont il faut se débarrasser, une espèce qui pose que des problèmes. Des problèmes de relations sociales entre les différents acteurs des territoires ruraux, des problèmes avec le monde agricole, des problèmes avec les gestionnaires d'aires protégées, des problèmes avec le monde de l'élevage du fait des enjeux vétérinaires. Et donc, de ce fait-là, il est complètement déclassé et il finit même par être mal aimé par les citadins qui le voient arriver, faire des dégâts ou les petites bourgades, les bourgs notre espace rural, quoi.
Enfin, puis c'est notre regard à la nature, mais bon, ça c'est encore un autre sujet très complet. On se fera une autre interview pour parler de ça. Pour finir cette interview, parce qu'on arrive nous au bout aussi, je sais que tu parles aussi dans le livre, et puis je sais que tu es allé aussi sur le terrain pour étudier cet animal, pour les équiper de GPS par exemple, ou d'autres techniques de suivi sur le terrain. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote ou un moment fort que tu as vécu avec cet animal sauvage?
Je peux en raconter peut-être deux. Une ancienne un peu naturaliste, on va dire, et puis une rencontre fortuite toute récente. Peut-être la rencontre ancienne, c'est moi en tant que naturaliste, j'étais parti observer il y a 15 ans les ours marsicains et les loups dans les Pyrénées cantabriques, pas les Pyrénées cantabriques, mais dans les Apennins, donc dans le parc national des Abruzzes en Italie. Et donc je faisais plutôt de la marche silencieuse pour surprendre les animaux. Et puis je suis arrivé dans un petit vallon. Et là, ça m'a procuré une émotion incroyable, puisque dans ce petit vallon, j'ai entendu des animaux arriver, vraiment un bruit de fond, une lame de fond véritable qui arrivait de ma droite. Donc c'était un milieu très calcaire. J'étais dans une espèce le fond de vallon était herbeux, mais sinon j'étais entouré de magnifiques hêtres sur milieu rocheux calcaire, quoi. Dans une très belle et très noueuse là, et tortueuse. Et là j'ai eu carrément une compagnie de sangliers, mais de plusieurs dizaines d'animaux, hein, plus de 50 animaux, mais qui a déboulé devant moi sans me calculer, mais qui m'est passé à très peu de distance et qui a suivi son chemin, mais donc qui a déroulé son passage. Et là, j'ai eu une émotion extrêmement forte. Donc, j'étais venu pour observer les prédateurs que j'ai observés par la suite, mais j'ai pas eu du tout la même émotion. Je m'attendais à davantage d'émotions à l'observation du loup, même s'il y en a eu évidemment, et de l'ours. Mais c'était des observations plutôt à la jumelle et à la longue vue. Et là, le fait d'avoir vu
proximité,
ce groupe de sangliers venir à ma rencontre, ne pas me calculer et poursuivre son chemin, c'était extrêmement impressionnant. Il y avait vraiment un effet masse et un sentiment de sauvagerie excessivement fort. Ça, c'est un peu un sentiment. L'autre sentiment, c'est ce que je voulais souligner, c'est le sentiment d'étonnement. Voilà, c'est-à-dire c'est l'étonnement qui a tendance à primer chaque fois que l'on rencontre le sanglier. La dernière fois, c'était juste avant Noël, à la sortie de mon village là dans le département du Gard. Je me rendais en ville et un dimanche matin, il y avait des battues dans les environs. En voiture, je suis tombé nez à nez avec un magnifique mâle, je sais pas, il devait faire une centaine de kilos, un magnifique sanglier, qui est sorti du fossé. Donc j'étais en train de reprendre de la vitesse dans une montée après un virage assez marqué. Et lui, il est sorti tranquillement, il s'est posé au milieu de la route, donc j'ai arrêté mon véhicule, j'ai eu le temps de freiner. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est regardé, voilà, on s'est regardé tranquillement. Et puis il a poursuivi son chemin, mais nullement apeuré. Et ce qui tend à primer, moi, à chaque fois, c'est cet étonnement. Il nous renvoie un étonnement, c'est-à-dire, comme nous, on est étonnés de le voir là. J'étais avec mes filles, on était étonnés de le voir là. On a pu l'observer quelques instants. Et lui était tout aussi étonné de nous voir là. Et donc, c'est ce miroir qui nous renvoie à notre condition humaine et cette altérité, voilà, de questionner nos modes d'existence les uns les autres. Qu'est-ce qu'on fait là ce matin-là? Pourquoi on se croise et qu'est-ce qu'on garde de et donc on garde un magnifique sentiment de cette expérience, quoi. Toujours.
Ça, ouais. Merci beaucoup, Raphaël, et une bonne journée.
Merci à toi. Très bon début d'année à tout le monde.
Merci. Eh bien, merci encore, Raphaël. Donc, si il dit très bon début d'année, je vous rappelle, c'est parce que c'est une rediffusion d'une interview qui avait été faite en janvier 2023 de cette année. Entre-temps, pour ceux qui l'ont pas encore lu, je vous conseille vivement de lire donc le livre de Raphaël Matvé sur le sanglier, édité chez Actes Sud. Vous trouverez ça dans toutes les bonnes librairies. On continue, puis on va terminer cette émission de l'Ornithoquoi en musique et en poésie.
Excuse me, mister. Do you have not here. Excuse me, mister, but is there natural oil in the sea? And the pollution in the air, mister, whose could that be? So excuse me, mister, but I'm a mister too. And you're giving mister a bad name, mister like you. So I'm taking the mister from out in front of your name, 'cause it's mister like you that puts the rest of us to shame. It's a mister like you that puts the rest of us to shame. And I've seen enough to know that I have seen too much. Excuse me, mister, can't you see the children die? You say that you can't help them, mister, you're not even trying. Excuse me, mister, just take a look around. Ah, oh, mister, just look up and you'll see it coming down. Lord, excuse me, mister, but I'm a mister too. Giving mister bad name, mister like you. So I'm taking the mister from out in front of your name, 'cause it's a mister like you who puts the rest of us to shame. It's a mister like you putting the rest. And I have seen enough. I've seen it. I've seen enough to know that I've seen too much. I've seen enough. I have seen enough to know that I have seen too much. See, 'cause mister, when you're rattling, oh, heaven's gate, by then it is too late. 'Cause mister, when you get there, they don't ask what you saved. All they'll wanna know, mister, is what you gave. So excuse me, mister, but I'm a mister too. And you're giving mister
Goélette, goélette goéland, oiseau de mer, oiseau de vent, voyageur des tempêtes, voyageur du beau temps, vous arrêtez-vous souvent? Gisèle Calmi, Selma.
Voilà, c'est la fin de cette émission de l'Ornithoquoi, l'émission de rentrée d'octobre 2023. C'est le moment des remerciements. On va essayer de faire dans l'ordre et de n'oublier personne. Merci à Lily, qui était un petit peu encore malade ce matin, mais avec qui on a pu enregistrer le Naturo Quiz. Merci à Raphaël Madvé, qui avait fait cette interview en janvier de 2023 et qu'on a rediffusé. Merci, un grand merci à tous les enfants de l'école publique de Sumène qui nous ont proposé les différentes poésies qui ont ponctué l'émission et qu'on va retrouver tout au long de l'année. Merci évidemment à toute l'équipe de Radio Escapade qui m'ont renouvelé leur confiance pour cette nouvelle saison de l'Ornithoquois. Merci à Fabien qui était à la technique aujourd'hui. Merci à la communauté de communes des Cévennes gangeoises et suménoises qui m'embauche et qui me permet de faire cette émission dans le cadre de mon travail. Et surtout, surtout, un grand merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs. Si vous souhaitez rester informé de nos nouvelles, je vous rappelle qu'il y a toujours la page Facebook du site Natura 2000 Gorge du Riotor Fache Cagnas. Pour ceux qui sont connectés à l'adresse, c'est Natura 12000. Et enfin, je termine par une petite annonce. On joue notre moment ornitho-artistique avec Cécilia et Solène. Et ça se passe samedi prochain, samedi 14 octobre, à partir de 16h à Lacadie-Récambeau, dans le parc qui est devant la mairie. Voilà, ça s'appelle Ocel et vous êtes les bienvenus, bien sûr. On se retrouve le mois prochain et d'ici là, ben, portez-vous bien et à tout bientôt.
Venez avec nous, entre Garrigues et Cévennes, au cœur d'un site Natura 2000, pour découvrir les nombreux oiseaux et leurs secrets, accompagnés d'un ornithologue.
Ornitho quoi ?